Philosophie politique par le père Philippe Saint-Joseph, le 27 novembre 84.
Pas de questions sur Platon, vous avez tout compris. Alors nous allons avancer. On ne peut pas rester trop longtemps, bien que ce soit très intéressant, et qu'il y a des tas de choses qui sont sous-jacentes dans cette position de Platon. Je crois qu'on ne peut pas rester trop longtemps sur la question de voir comment, toujours essayer de se mettre dans la perspective de Platon, comment on peut saisir le ti esti de la justice. Qu'est-ce que c'est que la justice? Et pour saisir le ti esti de la justice, étant donné que c'est tellement difficile de le trouver en nous, il faut le chercher dans les grosses lettres, c'est-à-dire dans l'État. Et pour le découvrir dans l'État, il faut essayer de comprendre la naissance de l'État. Un État, j'allais dire, absolument pur. Une nostalgie d'un État qui soit d'une limpidité. Comprenez bien, dans une limpidité, une pureté absolue. L'aurore, aux doigts de rose, hein, d'Homère. C'est ça, en fait. Il rejette Homère, mais il y a ça, chercher la naissance. La naissance de ce que représente cet état, l'état pur. Parce que c'est là où on découvrira exactement. Alors, nous avons vu comment c'est par rapport au gardien, nous avons vu la naissance de l'état. Merci, excusez-moi. La naissance de l'état, comment il impliquait progressivement, dans la mesure où il grandit, il implique des échanges et il implique une défense. Et que ceux qui sont donc dans cette défense jouent un rôle très particulier. On a vu les qualités des gardiens, l'irascible et le doux, et puis l'instinct philosophique. Il faut au moins retenir ça dessus. Parce que c'est intéressant de voir que le premier moment de la philosophie apparaît chez les gardiens de la paix. Alors, ils sont des hommes particulièrement philosophes. C'est vrai, c'est des hommes particulièrement. Je me souviens, au Solchoir, quand j'étais tout jeune, je crois que c'est le premier moment de ma vie apostolique, c'était des Solchoirs d'Étiole. Père Prieur m'avait dit, personne ce jour-là, j'étais seul. Alors, il arrive quelqu'un qui pose tout de suite cette question, il venait de Paris, passé la journée. Quelle différence y a-t-il entre la sèse et la mystique? Et puis, je lui demande, qu'est-ce qu'il fait? Il me dit qu'il est végétarien. Et il me précise qu'il est gardien de la paix. J'ai tout de suite pensé à Platon, vous comprenez? Les gardiens de la paix, se posant la question, quelle différence entre la sèse et la mystique? C'est assez extraordinaire. Et en continuant, il me dit, au fond, il n'y a que Jean qui a compris ça. Jean a compris. L'Inde n'a pas compris parfaitement le lien entre les deux. Et la conversation a continué comme ça. Et un beau jour, j'étais chez lui, il était en dehors de l'église. C'était comme tout le monde peut s'en douter, un breton. Alors, il était en dehors de l'église, mais il vivait avec Jésus, de façon étonnante. Il vivait avec Jésus. Et il avait un fils, il m'a dit, quand mon fils est né, je lui ai dit, tu t'appelleras Jean. Et je lui ai crié ça dans l'oreille. Une espèce de baptême particulier, vous voyez, c'était beau. Alors, on voit l'éducation des gardiens, je n'insiste pas trop là-dessus, parce que ça nous mène très loin, ça nous mène dans toute la critique sur la question des poètes. Et alors je vous lisais en terminant ce passage sur le point de vue de Dieu et la bonté de Dieu. Et je crois que ça, c'est quand même très important, voir que toutes ce que les poètes doivent enseigner dans ce qu'il a de meilleur, c'est le point de vue sur Dieu et la bonté de Dieu, et que Dieu ne peut être que cause de la bonté. Alors ça pose tout le problème du mal. Le mal, chez Platon, est résolu de cette manière très particulière, que le mal est du non-être. Ça n'existe pas. Ça existe pour nous, mais ça n'existe pas. Et Dieu seul peut être l'auteur du bien. Alors, c'est eux qu'on doit donc veiller d'une façon très particulière. La grosse question, ce sera de savoir comment, à partir des gardiens, on va choisir les magistrats. Alors, c'est en vue du courage et de la philosophie, 411, et c'est en vue du courage et de la philosophie qu'un dieu a donné aux hommes les deux arts de la musique et de la gymnastique. Il ne les a pas donnés pour l'âme et le corps, mais bien pour ses qualités, afin qu'elles s'harmonisent par le juste degré de tension et de relâchement qu'on leur donne. Donc, c'est ces gardiens qui ont reçu des dieux ces deux qualités particulières. Parmi les citoyens ainsi éduqués, quels sont les citoyens qui doivent commander et obéir? Voilà la grande question. Arxousi et Arxontai. Vous voyez que c'est intéressant de retrouver cette distinction qui est première dans la famille et que nous reverrons dans Aristote et qui est ultime pour Platon. Ceux qui commandent et ceux qui obéissent. Alors, comprenez bien, 412, c'est que les vieux doivent commander, les jeunes obéir, c'est évident. Parmi les vieux, les meilleurs, Aristous, les meilleurs d'entre les gardiens, donc les mieux doués pour garder la cité. Pour cela, ils doivent avoir des lumières, de l'autorité, un grand soin de l'intérêt de l'État. Nous retrouvons là, à l'intérieur des gardiens, ceux qui doivent être à la tête. Ce qu'on soigne le mieux, c'est ce qu'on aime. Or, ce qu'un homme aime le mieux, Malista, c'est ce dont il est persuadé que l'intérêt se confond avec le sien. Très pragmatique, dont il considère la réussite comme la sienne. Nous choisirons donc, entre tous les gardiens, ceux qui nous paraîtront les plus zélés à faire, pendant toute leur vie, ce qu'ils auront jugé utile à l'État. Et qui, à aucun prix, ne consentiront à faire ce qui est contraire au bien public. Ceci implique qu'on les a éprouvés. Donc un noviciat. Il faut ensuite persuader les magistrats. Vous voyez comment on est conduit à partir des gardiens aux magistrats. Il faut ensuite persuader les magistrats, même s'il le faut par un mensonge. Ils sont sortis de la terre, celle-ci est leur mère. Elle est la mère de tous. On est tous frères, mais il y a ceux qui ont de l'or, ceux qui ont de l'argent, ceux qui ont du fer. Ce sera par le point de vue du corps qu'on va pouvoir ordonner et comprendre. Vous voyez donc, là encore, hein, c'est ça qui me semble très curieux, dès qu'on étudie un tout petit peu Platon, de voir ce double lien, ce double axe. Un axe, d'une certaine manière, de la causalité exemplaire. Alors on touche quelque chose de très beau. Oui. Il faut choisir comme gardien ceux qui sont les mieux doués. Il faut choisir comme gardien ceux qui sont capables de commander et ceux dont on est sûr qu'ils ne varieront pas dans leur amour pour le bien public. On ne dit pas ce que c'est que le bien public. Et d'autre part, il faut comprendre et persuader les magistrats que la terre est la mère de toute chose, de tous. Et donc, il faut revenir à cette graduation mythique. C'est une graduation mythique, ça. Les uns ont un corps d'or, un corps qui est en or. Les autres qui ont un corps en argent. Les autres, en corps de fer. Alors, en fonction de ça, vous allez voir tout de suite, en fonction donc des dispositions, vous allez déterminer. Et ça, c'est très très net, hein. Cela peut varier, dit-il, comme composition pour les enfants. Et c'est pour ça qu'il faut être si attentif à l'éducation. Il faut rendre à leur nature la justice qui leur est due. Donc il faut bien discerner. Et tout l'art d'éducation consiste à discerner les qualités d'un jeune et respecter ses qualités. 419a. Ses gardiens. Tels que Platon veut les éduquer, ils ne sont pas heureux. Notre but, et je lis ça à cause de la réponse, 420, mais notre but en fondant l'État n'est pas de rendre une classe unique de citoyens particulièrement heureux, mais d'assurer le plus grand bonheur possible à l'État tout entier. Cet aspect très absolu du chef et cet aspect très démocratique. Toujours cette dualité. Mais d'assurer le plus grand bonheur possible à l'État tout entier. Parce que nous avons cru que c'est dans un État de ce genre que la justice se découvrirait le mieux. Parce que nous avons cru que c'est dans un état de ce genre que la justice... Donc, l'État fait découvrir la justice, et la justice légitime l'État. C'est réciproque. Et que cette découverte nous mettrait à mieux de trancher, nous permettrait le mieux de trancher la question qui nous occupe depuis longtemps. C'est l'État heureux que nous voulons former, sans faire exception de personne. Nous voulons le bonheur de tous. C'est d'un libéralisme merveilleux, c'est d'un don merveilleux, c'est le socialisme dans ce qu'il a de merveilleux. Nous voulons le bonheur de tous. Il faut absolument, il faut pas mettre de barrières. Ça, c'est cette vision qui est très très nette chez Platon. Le bonheur ne doit pas être au-delà de la condition de chacun. Ah, ce socialiste qui prend un bémol. Vous voyez, ça, tout de suite. Mais les deux affirmations sont l'une à côté de l'autre. C'est ça qui est intéressant. C'est l'état heureux que nous voulons former sans faire exception de personne. Nous voulons le bonheur de tous. C'est merveilleux. Le bonheur ne doit pas être au-delà de la condition de chacun. Or, la condition de chacun, vous avez un corps en or. Soyez philosophe. Vous avez un corps en argent. Soyez magistrat. Vous avez un corps de fer ou des reins. Alors, soyez gardien pour la guerre. Et ainsi de suite. Vous voyez, le bonheur est différent pour chacun. On dira, c'est une justice distributive. Oui, mais assez particulière. Nous formons des gardiens véritables, absolument incapables de faire le mal à l'État. Ils ne peuvent avoir en vue autre chose que l'État. Chaque classe doit prendre la part de bonheur que la nature lui assigne. C'est c'est l'état tout entier qui a le bonheur absolu. Donc la totalité a le bonheur absolu. Nous ne sommes que des parties. Et au point de vue de la personne, il n'y a pas de personne. Hein. On est une partie de l'état. Et c'est le bonheur, c'est l'état dans sa totalité. Ce sont les phrases les plus significatives, hein, au point de vue de la conception qu'il se fait de la communauté. La communauté devient un grand tout. Et comme la communauté, c'est la justice au sens le plus fort, la communauté, c'est le tout. Et la communauté seule a le bonheur. Ça, c'est très, très important. Il n'y a que cela. Et c'est ça qu'on cherche. On cherche à découvrir un état qui est comme ça. Donc, vous voyez comment l'abstrait devient le concret. Le tout, c'est abstrait. Le tout devient la réalité et la réalité première. C'est l'état tout entier qui a le bonheur absolu. Deux obstacles à éviter. Pour les artisans, la richesse et la pauvreté. Alors ça aussi, c'est très intéressant. Il faut éviter le paupérisme. Il faut éviter la trop grande richesse. Il faut donc y trouver un équilibre pour les artisans. Parce qu'autrement, ça ne peut plus aller. C'est impossible. Alors, 424b, il faut donc que les gardiens de l'État s'attachent à empêcher qu'on ne corrompe à leur insu l'éducation, étant donné l'importance de l'éducation, la paideia, étant donné l'importance de l'éducation. L'éducation, c'est vraiment ce que les magistrats doivent avoir comme première intention. Parce que c'est cela qui sauvegarde les gardiens. S'il n'y a pas d'éducation, il n'y aura plus de gardiens. Et donc, on se laissera nécessairement prendre par le point de vue de la guerre des autres. Il faut donc que les gardiens de l'État s'attachent à empêcher qu'on ne corrompe à leur insu l'éducation. Ils doivent, en toutes circonstances, veiller à ce qu'on n'innove rien. Alors, le plus grand traditionnalisme, c'est des extrêmes extraordinaires, qu'on n'innove rien dans la gymnastique et la musique, contre l'ordre établi. Il ne faut absolument rien innover là-dedans. Il ne faut légiférer, il ne faut pas légiférer sur les détails, car l'élan qui vient de l'éducation est un élan qui doit être impétueux. Sa direction doit donc tout emporter. Et il ne faut pas, et il dit ça par rapport à certaines petites objections qu'on peut donner en disant, mais ça c'est des détails. Le législateur ne regarde pas ça. Il est fixé sur le tout. Alors, d'autre part, nous l'avions déjà vu à propos de ce qu'il disait sur Dieu, et il revient encore, 427d, l'aspect religieux est fondamental. C'est Apollon, le dieu de Delphes, a dicté la plus importante et la plus belle, la plus nécessaire des lois. Les lois pour le fondateur de temples, les sacrifices, le culte des dieux, voilà la loi principale. Car ce dieu, donc Apollon, il faut bien voir l'oracle de Delphes, c'est cet Apollon qui doit être regardé comme le dieu de la République de Platon. 437c, car ce dieu interprète traditionnel de la religion s'est établi au centre et au nombril de la terre pour guider le genre humain. Delphes. Voilà ce que c'est que Delphes pour Platon. L'oracle de Delphes, Socrate. On voit ce que ça représente. C'est très important de se rappeler ça, parce que c'est quand même quelque chose de très grand. Ceux qui ont été à Delphes ont eu tous un peu cette impression. Il reste quelque chose à Delphes. très difficile à savoir ce que c'est, mais il reste quelque chose, il y a quelque chose de grand, d'harmonie merveilleuse, quelque chose d'étonnant. Donc voilà la cité fondée. Hein, elle est fondée. On a vu tout, et maintenant on va revenir. Voilà la cité fondée. Il faut y trouver la justice. Où réside-t-elle? Or, cet état est parfait. Donc il est prudent, courageux, tempérant, juste. Le premier qu'on aperçoit, c'est la sagesse. Il est sage en son conseil. Il a une science qui réside en quelques citoyens, les magistrats, les gardiens, qui délibèrent sur l'État et sur toutes les questions de l'État. Donc prudence et sagesse, ça ne fait qu'un. Alors c'est important de voir que c'est la première chose qu'on voit, c'est la sagesse. Voilà la plus petite partie de l'État, sa tête, qui gouverne. Voilà où réside la Sophia. C'est dans celui qui est la tête de l'État. Pensez, n'est-ce pas, à toutes les comparaisons sur le corps mystique. Hein, c'est étonnant, d'une certaine manière. Parce que c'est la tête, la Sophia. Le courage réside en ceux qui combattent et luttent, qui font la guerre. L'État est courageux par une partie de lui-même. Parce que c'est en cette partie que réside le pouvoir de maîtriser en tout temps l'opinion relative aux choses qui sont à craindre. Choses qui doivent être les mêmes et de la même nature que celles que le législateur a indiquées dans son plan d'éducation. Le législateur a indiqué ce qu'on devait craindre et ce qu'on ne devait pas craindre. Parce que le courage, hein, c'est face à ce qu'on doit craindre ou pas craindre. Si vous avez peur de la mort, vous êtes des poltrons. Dès que la mort est immédiate, mais n'ayez pas peur de la mort. Supprimez la crainte de la mort. Alors à ce moment-là, vous aurez des hommes forts. Oui. Et le législateur doit faire ça, et les magistrats doivent continuer. Voilà le point de l'éducation. On façonne un homme tel que le législateur l'a conçu, dans sa tête. C'est extraordinaire. Et c'est très beau lorsqu'il s'agit justement de l'Andrea, quand il s'agit du courage. Parce qu'on voit bien, le courage, c'est face au péril de mort. Alors, face au péril de mort, si on vous présente la mort comme le plus grand mal, ben évidemment, vous allez tout faire pour éviter la mort. Et si vous faites tout pour éviter la mort, dès que l'ennemi arrivera, ficherez le camp. Je vous donnerai un coup de fusil sur votre orteil pour vous montrer que vous êtes blessé, et comme ça vous serez sur le côté et on ne vous tuera pas. C'est la grande tactique. Hein. C'est comme ça. Et alors à ce moment-là, vous êtes blessé, vous êtes en droit. Il a la frousse. Alors, le courage. Le courage est la conservation et le salut. Là aussi, c'est très beau, cette phrase, l'Andrea esti soterian. Soterian, le salut. Oui, donc, il donne une exaltation. Nous avons la tête, hein. Donc la Sophia. Sophia, évidemment, c'est au-dessus de tout, c'est bien évident. La sagesse, elle domine tout. La sagesse domine tout, et c'est à partir de là qu'on aura la science. Et c'est à partir de là, puisque ce qui s'oppose à l'éducation, c'est l'ignorance. La sagesse implique la science. Et la science va permettre donc l'éducation. Et donc permettre le législateur. Le législateur, c'est celui qui va éduquer. Et dans l'éducation, une des choses principales, c'est de voir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et donc, ce qui est redoutable, ce qu'on doit éviter, ce qu'on ne doit pas éviter. Et tout de suite, il faut faire attention au courage. Les gardiens prennent une place très importante. Là, nous avons les magistrats, et puis le philosophe au-dessus. Ça, c'est sûr. C'est le plus vieux, c'est le mieux doué, c'est le philosophe. Vous avez ensuite les magistrats, et vous avez ensuite les gardiens, puisque les gardiens doivent avoir les magistrats. Mais c'est le courage qui domine. Et le courage est sotérian. Il s'aime. On prend très bien. Il sauve l'État. S'il n'y a pas de courage chez les gardiens, l'État sera corrompu, il ne pourra pas exister. Donc, de l'opinion que la loi a créée par le moyen de l'éducation sur les choses qui sont à craindre et sur leur nature, c'est une vertu politique. Pour lui, c'est très important. Déterminer ce qui est à craindre et ce qui n'est pas à craindre. Oui, la connaissance du bien et du mal, transformée ici, la connaissance de ce qui est à craindre et ce qui n'est pas à craindre, pour sauver le pays, pour maintenir le courage. C'est pour ça qu'il dit, c'est une vertu politique. La vertu politique, elle est au gardien, pour sauver le pays. Ensuite, il y a la tempérance. La tempérance, elle ressemble à une harmonie, à un accord. Mais même que la tempérance, c'est sophrosuné, donc c'est presque 430 C. C'est donc un aspect d'ordre. Il faut préciser l'ordre sur les plaisirs, sur les passions. En vue d'être maître de soi. C'est la vertu de tempérance qui donne la maîtrise de soi. C'est qu'il y a deux parties dans l'âme de l'homme, l'une meilleure, l'autre moins bonne. Il y a l'intempérance, les passions, et la partie meilleure qui domine, d'où vient la tempérance. L'état fondé par Socrate, est bien maître de soi. Et il est maître de ses passions et de ses plaisirs et de lui-même. Donc, il est tempérant. Vous voyez toutes les vertus. Si jamais, dans un état, donc dans un état gouvernant, tous ont la même opinion sur ce qu'ils doivent réaliser eux-mêmes, il y a donc un accord parfait. Et alors on peut dire que l'État, à ce moment-là, connaît la tempérance. 438b, la justice, où est-elle? Oui, on n'a pas voulu la tempérance. Où est la justice? Elle se cache très bien. Où est-elle? La tempérance, vous comprenez très bien, ce sont les artisans, ce sont les commerçants. Les commerçants, on les met en dehors, ils n'ont pas de vertu. Non, les commerçants n'ont pas de vertu, ils ne constituent pas l'État. Ils sont nécessaires comme des courroies de lead, de lien, mais ce n'est pas ça possible, c'est les artisans. Tous les artisans doivent être tempérants, ils doivent dominer sur leurs passions. La justice, où est-elle? Elle est quelque part ici. Ce que nous avons établi dès le début, ex arches, quand nous jetions les fondements de notre État comme un devoir universel, c'est ce devoir, ou quelque forme de ce devoir, qui est la justice. C'est curieux. Vous voyez la sagesse. Vous voyez le point de vue du courage. Vous voyez la tempérance, mais la justice, elle se cache. C'est ce devoir, ou quelque forme de ce devoir, qui est la justice. Chaque individu ne doit exercer qu'un seul emploi dans la société, celui pour lequel la nature lui a donné le plus d'aptitude. La justice consiste à s'occuper de ses affaires, sans s'occuper de celles des autres. Ah, vous voyez bien, ça c'est... Et les vaches seront bien gardées. Occupez-vous de vos affaires sans vous occuper des autres, restant bien à votre place. La justice consiste à s'occuper de ses affaires, donc elle est dans chacun. Et c'est ça qu'il fallait montrer. Elle n'est pas, vous voyez, le courage, il est chez les gardiens. La sagesse, il est chez les philosophes. Et la science, elle est chez les magistrats. La tempérance, elle est chez les artisans. Il leur faut de la force. Il faut en même temps être tempérant. La justice, elle est partout. Elle est présente partout. Et ça consiste tout simplement, vous voyez, à mettre que chacun soit à sa place. Et que chacun reste bien à sa place. C'est une justice de providence. Enfin, il faudrait être Dieu pour dire ça. C'est la justice divine, ça. Qu'est-ce que c'est que la justice en Dieu? Comme saint Thomas l'a défini, respecter l'ordre de la sagesse de Dieu. C'est ça la justice. Que chacun soit là où il doit être, en vue d'atteindre sa fin. Alors au fond, cette justice, elle est une justice que Dieu seul peut connaître. C'est ce qui a donné aux trois vertus précédentes la puissance de naître. Encore plus étonnant, ça. Ce qui a donné aux trois vertus la puissance de naître. Je crois que c'est ce qui reste dans la cité, en dehors, je vous lis le passage 433b, parce que c'est quand même là, peut-être, le point de vue le plus important. Je crois, dis-je, et c'est arrivé avec beaucoup de nuances, vous voyez, il a caché son jeu jusqu'au bout. Hein. Toujours, qu'est-ce que c'est que la justice? Qu'est-ce que c'est que la justice? Je crois, dis-je, que ce qui réside dans la cité, en dehors des trois vertus, que nous avons examiné, tempérance, courage, sagesse, c'est ce qui leur a donné à toute la puissance de naître. Et les conserve une fois nées, tant qu'elles demeurent en elles. Or, nous avons dit que la vertu qui resterait, quand nous aurons trouvé les trois autres, serait la justice. Par mode négatif. On n'a pas découvert tout de suite la justice. Alors là, c'est aussi un problème très curieux. On a montré les autres, qui étaient plus visibles. Et où est la justice? On ne lui a pas assigné de place. Dans l'état de Platon, la justice, elle est dans le tout. N'oubliez pas, on a dit que seul le tout avait le bonheur. Que seul le tout, la cité, c'était le point de vue de la perfection. En effet, c'est forcé, dit-il. Mais repris-je, s'il fallait décider laquelle de ces vertus contribuera le plus par sa présence à la perfection de notre cité, il serait difficile de dire si c'est la conformité d'opinion des gouvernants et des gouvernés, ou le maintien chez les soldats de l'idée légitime de ce qui est à craindre et ce qui ne l'est pas, ou la prudence ou la vigilance dans les chefs. Ou si la cause la plus efficace de son excellence ne serait pas la présence de cette vertu par laquelle enfants, femmes, esclaves, hommes libres, artisans, gouvernants et gouvernés font respectivement leurs besognes sans se mêler de celles des autres. Un enfant bien sage, bien juste, hein, il est un enfant. Ce serait difficile à décider, dit-il, assurément. Ainsi donc, la force de remplir la tâche que la société impose à chaque individu rivalise, semble-t-il, avec la sagesse, la tempérance et le courage pour le perfectionnement de l'État. Et cette force qui concourt avec le reste à la perfection de l'État, n'admets-tu pas que c'est la justice? Donc la justice, c'est celle qui réalise ça, est à la naissance de toutes les autres vertus. C'est très curieux, même la sagesse. Examine la question d'une autre, un autre point de vue pour voir si tu seras du même avis. N'est-ce pas les chefs que tu chargeras dans notre cité de juger les procès ? Sans doute. Et dans leur jugement, à quoi s'attacheront-ils de préférence ? Si ce n'est à empêcher les citoyens de s'emparer du bien d'autrui ou d'être dépouillés du leur. Ça, c'est très grec. Ils n'auront pas d'autre but, parce que cela est juste, oui. C'est une raison de plus de convenir que la possession de son bien propre et l'accomplissement de sa propre tâche constituent la justice. Mais vois si tu seras du même avis que moi, que le charpentier se mêle de faire le métier du cordonnier, que le cordonnier est celui du charpentier, ou qu'ils échangent leurs outils et leurs salaires, ou que le même homme se mette en tête de faire les deux métiers à la fois, qu'on échange ainsi tous les métiers. Te paraît-il que la cité en souffrirait un grand dommage ? Pas un très grand, répondit-il. Mais je pense que si un artisan ou tout autre que la nature a destiné à une vie de lucre, enflé de sa richesse, du nombre de ses partisans, de sa force ou de tout autre avantage pareil, se mettait en tête d'entrer dans le corps de guerrier ou un guerrier dans le corps délibérant qui veille sur l'État, en dépit de son incapacité, et s'ils échangeaient leurs instruments et leurs salaires, ou si le même homme entreprenait de remplir tous ses offices à la fois, je pense que tu jugerais alors avec moi que cet échange et cette confusion seraient la perte de la cité. Et un ministre qui passe d'une charge à une autre charge, c'est la perte de la cité. C'est pas moi qui le dis, c'est Platon. Parce qu'à ce moment-là, on ne peut pas tout savoir. Ah, pas simple. On peut faire une chose bien. Et encore, quand on y met toute son attention, on peut faire une chose bien. Alors évidemment, on peut monter successivement, parce que vous allez dire alors, quand on entre dans la communauté Saint-Jean, on fait autre chose avant. Oui, oui, c'est très vrai, c'est autre chose alors là. Oui, ce sera l'ordre surnaturel. Et ça peut se comprendre que dans l'ordre surnaturel. Alors c'est le corps mystique. C'est le corps mystique et c'est suivre ce que Dieu nous demande, perdre son âme pour la sauver. Et c'est vrai, c'est perdre son âme pour la sauver au sens propre. Ce qu'on faisait avant correctement bien, vient tout d'un coup, si vous ne revenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. C'est très important de comprendre ça. Parce que nous avons toujours un tout petit peu, voyez, le souci de Platon, ça. Et ça me semble très intéressant de voir ça. Alors, une autre grande question. 434D. La justice de l'État et celle de l'individu. Nous sommes partis de la question. Nous sommes partis de la petite justice. Alors donc vous voyez bien comment la justice englobe tout et elle est à la racine de tout et elle est à l'achèvement de tout. Donc la justice coiffe la sagesse. C'est pas entièrement vrai. Mais d'après ce texte, je pourrais le dire. Vu tout et puis la sagesse. La justice vient en dernier lieu. Alors, on est parti des petites lettres et des grandes lettres. On y revient. Donc, grande question. La justice de l'État de l'individu. Bien, pour Platon, c'est net. La justice de l'État et celle de la justice. Elle est homoios. Elle est semblable. Toujours. L'individu et l'État ont la même justice. Et alors, à partir de là, une fois qu'on a compris ça, on peut essayer de préciser encore ce que représente la justice de l'individu. Mais je ne vais pas développer trop ça, parce que ça nous mènerait trop loin. Je voudrais quand même, aujourd'hui, terminer. Notre état, donc, ne sera réalisable. Donc il y a tout un grand développement de la justice de l'individu et de l'état. Notre état ne sera réalisable que si les philosophes sont rois. 5.473d. Voilà le petit changement à opérer, signale Platon. Ou que les rois et les souverains ne deviennent de vrais savants et de vrais philosophes. Il y a une double transformation. La révolution peut se faire dans les deux sens. Ou vous convertissez les rois à devenir des philosophes. C'est plus facile que de faire la révolution et de mettre des philosophes rois. C'est plus difficile. Mais il envisage les deux. Il faut revenir donc à ce que représente la philosophie. La dunamis politique, c'est beau comme expression, la philosophie, c'est la dunamis politique, c'est la puissance politique. On avait déjà vu que l'Andreia, le point de vue du courage, implique cela. Donc, il faut revenir dans le même sujet, il faut essayer de comprendre dans le même sujet, donc c'est la philosophie comme telle et cette dunamis politique. Voilà le salut de l'État. Et même du genre humain. Sans cela, c'est impossible. L'État comme tel ne pourra jamais arriver à la justice. Il faut montrer que la nature a fait les uns pour s'attacher à la philosophie et commander dans l'État, les autres pour s'abstenir de la philosophie et obéir à celui qui gouverne. Ce discernement, il n'est pas fait par des psychologues, il est fait par la nature. Vous voyez ? On retrouve toujours les mêmes problèmes. Un discernement radical qui doit être fait. Les philosophes désirent toute la sagesse. Ils désirent posséder toute la sagesse. Car le désir et l'amour veut tout. Donc, l'épithumia à l'égard de la sagesse, à l'égard, veut la totalité. Si un homme est tout disposé à goûter à toutes les sciences, se porte volontiers à l'étude et y montre une ardeur inaltérable, celui-là, n'aurons-nous pas raison de l'appeler philosophe ? À la première définition du philosophe, 475, c'est donc, c'est le désir de connaître, la curiosité de connaître, et montre une ardeur insatiable. Celui-là, n'aurons-nous pas raison de l'appeler philosophe ? Les vrais philosophes ne sont pas les curieux. Alors, il y a une distinction entre les curieux dilettantes et la curiosité philosophique. Les vrais philosophes ne sont pas les curieux, ils sont ceux qui aiment à contempler la vérité. Philotheamonas, ils aiment de contempler la vérité. Les amateurs des sons, des spectacles, les amateurs de tout ce qui est sensible et visible, ceux-là ne sont pas des philosophes. Ne peuvent pas découvrir la beauté des formes et le bien en soi. Tandis que l'esprit du philosophe est capable d'apercevoir, d'aimer la nature du beau en soi. Alors pour lui, c'est vraiment ça qui définit le philosophe. Le philosophe, il est capable de découvrir et de contempler la nature du beau en soi. Mais vous voyez qu'on n'y arrive pas tout de suite. Il y a d'abord un très grand désir. Platon distingue alors la connaissance droite de l'opinion. Ça, c'est une distinction sur laquelle il revient constamment. 470 idées. C'est intéressant. Les curieux n'aboutissent qu'à des opinions. Tandis que le philosophe, lui, va découvrir la connaissance, la gnomène orthos. L'opinion est entre la gnosis et l'ignorance. Elle regarde ce qui participe à la fois de l'être et du non-être. Les philosophes sont ceux qui s'attachent à chacun et dans chaque chose à l'être. Et non, ils ne sont pas les amis de l'opinion. Le philosophe doit gouverner parce qu'il s'attache à la vérité idéale. 484. Si les philosophes sont ceux qui sont capables d'atteindre ce qui existe toujours d'une manière immuable, ne faut-il pas les mettre à la tête de l'État? C'est à partir de l'ignorant, de l'aveugle, que Platon établit la nécessité de mettre les philosophes en avant. Donc encore un raisonnement par mode de négation. Ils ont la connaissance de tout ce qui est. Et c'est parce qu'ils ont la connaissance de tout ce qui est qu'ils sont les seuls à pouvoir ordonner les hommes vers le bien. Et donc de maintenir un état dans la justice. Alors voyez le petit problème qui se pose. Nous essaierons de le régler la fois prochaine. C'est la dernière chose que je verrai avec vous, avec le mythe de la caverne, parce qu'on ne peut pas parler de la République sans parler du mythe de la caverne. Alors vous voyez, la question qui se pose, c'est que la Sophia regarde le beau en soi. C'est net. La contemplation du beau en soi. Ni philosophe que celui qui arrive à contempler le beau en soi. Et le beau en soi est identique au bien en soi. Et c'est cette contemplation du beau en soi et du bien en soi qui permet aux sages de légiférer et donc d'ordonner et d'établir la justice. Ça, c'est net. Quand j'ai vu la justice, j'ai vu que la justice présidait à la nature.